Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manivakis à la présentation de cette édition du 27 avril 2021. Voici d'abord le sommaire. Au moins 5 personnes tuées dans des manifestations contre la junte au Tchad. Au Burkina Faso, 3 Européens portés disparus hier ont été exécutés par leurs ravisseurs. Au Nigeria, 5 policiers tués dans une nouvelle attaque contre un commissariat dans le sud-est du pays. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, promet un engagement substantiel de Washington en Afrique. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Au Tchad, la coalition dénommée Wakit Tama a bravé l'interdiction de la manifestation annoncée pour ce mardi sur l'ensemble du territoire national. Des manifestations violemment réprimées par les forces de l'ordre qui ont tiré à balles réelles sur des manifestants, faisant au moins 5 personnes tuées et une vingtaine de blessés. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
La manifestation du jour est d'une rare violence. Les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur des milliers de Tchadiens qui ont décidé de descendre dans la rue pour dénoncer le comité militaire de transition mis en place après le décès brusque du président Idriss Déby Itno il y a une semaine. L'appel lancé par la coalition Wakit Tama visait aussi à dire non à ce que les manifestants qualifient de caution de la France au conseil militaire de transition et la monarchisation du pouvoir par la junte militaire. Les jeunes étaient déterminés. Dès la première lueur du jour ce mardi, des mouvements sporadiques se font signaler dans 3 communes, notamment 6e, 7e et 9e arrondissements. Rapidement, le mouvement embrase les autres quartiers de la capitale et le sud du Tchad. Des groupes de manifestants sillonnent les quartiers, brûlant au passage les pneus sur les voies publiques et des drapeaux français. D'autres cherchent même à s'attaquer aux intérêts français, à savoir les stations totales visibles dans la ville. La police fut rapidement débordée, appelée en renfort les éléments des forces du 3e décret ont tiré à balles réelles sur des manifestants faisant 3 morts confirmés dont un à Mondou, capitale économique du Tchad. Plusieurs personnes ont été blessées. Une femme a été tuée dans un bus par des manifestants selon le procureur de la République. Et dans son bilan provisoire de cette journée sanglante, la CTDH, la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme, parle de 9 morts dont 7 à N'Djamena et 2 à Mondou. André Kodumadjingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
Le président français Emmanuel Macron et son homologue congolais Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, ont condamné ces violences. Monsieur Tshisekedi a appelé les autorités tchadiennes à très vite revenir à l'ordre démocratique. Monsieur Macron a appelé à une transition pacifique, démocratique, inclusive. Il a également assuré qu'il n'était pas pour un plan de succession à la tête du Tchad. Le général Mahamat Idriss Déby, qui dirige la junte militaire, a promis mardi dans un discours télévisé d'organiser un dialogue national inclusif. Toujours au Tchad, au moins 12 militaires et 40 assaillants ont été tués mardi dans des combats suite à l'attaque d'une position de l'armée par des djihadistes dans la région du lac Tchad, a affirmé le gouverneur de la province, Mahamat Fadoul Makaï. Le porte-parole de l'armée, le général Azem Bermandoa Aguna a confirmé l'attaque, mais a refusé de livrer un quelconque bilan. Les 3 Européens disparus après une attaque lundi dans l'est du Burkina Faso, 2 Espagnols et 1 Irlandais, ont été exécutés par les terroristes, a annoncé un responsable des services de sécurité. Madrid a confirmé la mort des 2 Espagnols. Un soldat burkinabé est aussi porté disparu de Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Ces hommes faisaient partie d'une patrouille anti-braconnage composée de militaires, de forestiers, de formateurs et de journalistes étrangers lorsqu'ils ont été attaqués hier sur l'axe Fadan-Gourma-Pama dans l'est du pays, une zone infestée par des groupes terroristes. L'attaque a fait, selon les premières informations des sources locales et sécuritaires, 4 disparus, un Burkinabé, 2 Espagnols et un Irlandais. On parle aussi de 3 blessés. L'attaque a été menée par des hommes armés circulant à bord de 2 véhicules pick-up et d'une dizaine de motos, selon des sources sécuritaires qui ont précisé que des armes et du matériel, dont 2 pick-up et un drone, avaient été emportés par les assaillants. L'Espagne a confirmé mardi que 2 citoyens espagnols qui se trouvaient au Burkina Faso sont portés disparus. De son côté, le ministre irlandais des Affaires étrangères a dit avoir été informé et collaboré avec des partenaires internationaux à propos de la situation sur le terrain. Au moins deux des trois Occidentaux ont été blessés selon des témoignages, ce qui fait craindre qu'ils n'aient été tués par les terroristes, a affirmé une source sécuritaire. Aucune nouvelle du dernier otage, le Burkinabé. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Dans le sud-est du Nigeria, cinq policiers ont été tués hier soir dans une nouvelle attaque contre un commissariat de l'État d'Imo. Cette partie du pays connaît une recrudescence d'attaques visant les forces de sécurité que les autorités attribuent à des membres d'un groupe qui milite pour l'indépendance de l'État du Biafra. Les détails avec Nani Tetalani.
Des hommes non identifiés ont attaqué le commissariat de la zone sud de la ville de Kikwe. Cinq policiers ont été tués, tandis qu'un autre est porté disparu, a affirmé Orlando Ikoku, porte-parole de la police de l'État d'Imo. Selon plusieurs témoins, des affrontements ont éclaté hier soir à Owerri, capitale de l'État d'Imo. Le porte-parole de la police a indiqué qu'il y a eu de nombreux coups de feu et que les forces de l'ordre étaient en train de vérifier ce qui s'est passé. Ce week-end, la résidence du gouverneur de l'État a également été attaquée. Des hommes y ont lancé des cocktails Molotov, tuant trois policiers. Dans l'État de Rivers, au moins cinq membres des forces de sécurité, dont trois douaniers, ont été tués ce week-end. Les tensions restent fortes dans la région, plus de 50 ans après la fin de la terrible guerre du Biafra, qui avait fait près d'un million de morts.
Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a demandé mardi le soutien de la France face à un groupe d'islamistes actifs dans l'est du pays. Sans les nommer, M. Tshisekedi fait référence aux miliciens des forces démocratiques alliées ADF. Ces rebelles musulmans ougandais se sont installés en 1995 dans l'est de la RDC. Le 11 mars, les États-Unis les ont placés parmi les groupes terroristes. 17 pays ainsi que l'Union européenne, soit les grands bailleurs de fonds de la République démocratique du Congo, ont salué mardi l'investiture d'un nouveau gouvernement en demandant au président Félix Tshisekedi de saisir cette opportunité historique pour répondre aux attentes de son peuple. Des soldats érythréens bloquent et pillent de l'aide alimentaire au Tigré selon des documents du gouvernement éthiopien. Le centre de coordination d'urgence du gouvernement intérimaire au Tigré affirmait que des soldats érythréens ont chassé des travailleurs humanitaires distribuant de l'aide alimentaire au sud de la capitale régionale de Mekele. Lundi, lors d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre Ahmed Abiy, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a à nouveau réclamé leur départ, estimant qu'ils contribuent au désastre humanitaire croissant. En Somalie, des habitants pris entre forces pro-gouvernementales et combattants pro-opposition fuyaient mardi certains quartiers de Mogadiscio. Les deux camps consolidaient leur position deux jours après des affrontements qui ont fait trois morts. Le président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, a prolongé son mandat de deux ans. Le secrétaire d'État américain promet un plus grand engagement de Washington en Afrique tout en tirant la sonnette d'alarme sur l'influence de la Chine. Il a eu ce mardi un entretien virtuel avec les présidents nigérians et kényans, ainsi qu'avec de jeunes cadres du continent. Abdulrahman Dia.
Le président nigérian Muhammadu Buhari, lors de son entretien avec le chef de la diplomatie américaine, a remercié Joe Biden d'avoir assoupli les sévères restrictions de Trump sur les visas aux États-Unis. Buhari a promis d'intensifier la collaboration en matière de sécurité avec Washington, notamment sur le Sahel. Lors d'une discussion avec des jeunes cadres africains ayant étudié aux États-Unis, Anthony Blinken a indiqué que les États-Unis entretiennent de plus en plus de relations concurrentielles avec la Chine, qui ne fait rien pour faire progresser les valeurs démocratiques selon lui. Nous ne vous demandons pas de choisir entre les États-Unis et la Chine, mais je vous encourage à poser ces questions difficiles, à creuser, à exiger la transparence et à faire des choix éclairés sur ce qui est le mieux pour vous et vos pays, a déclaré le patron du département d'État dans ce qui est présenté comme un voyage virtuel en Afrique. M. Blinken a souligné que les États-Unis croient au potentiel extraordinaire de l'Afrique. Votre succès est le nôtre, nous voulons y investir, mais de la bonne manière, a-t-il dit aux anciens pensionnaires du programme Yali.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden va signer aujourd'hui un décret relevant à $15 le salaire horaire des travailleurs contractuels du gouvernement fédéral. Ce décret impose aux entreprises sous contrat avec le gouvernement fédéral de payer ce salaire horaire minimum. Le salaire minimum actuel est de $10.95 de l'heure pour ces travailleurs. La mesure s'appliquera à partir du 30 mars 2022 pour tous les nouveaux contrats, puis progressivement à chaque renouvellement de contrat chaque année pour la plupart. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Place à l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco signée d'Anit Talani.
L'économie du Togo devrait croître de 3,7% cette année, a indiqué le Fonds monétaire international, alors que la Banque mondiale table sur une hausse de 3%. La Banque africaine de développement projette une croissance de 4,3% qui est proche des estimations du gouvernement togolais qui s'attend à une amélioration de 4,8%. Ces progrès seront possibles grâce aux mesures anti-Covid et les efforts de relance de la croissance économique. Le Gabon a réalisé un gain net de 9,184,5 milliards de francs CFA dans son commerce avec la Chine entre 2009 et 2020, indique l'International Trade Center, une structure qui compile des statistiques du commerce dans le monde. Ce chiffre équivaut à environ 30% de l'excédent commercial de Libreville sur 10 ans, ce qui fait que la Chine est le partenaire commercial avec lequel le Gabon a le plus fait du profit. Terminons par l'Afrique du Sud qui prévoit de relever le seuil d'octroi de licence pour les projets de production d'électricité à petite échelle à 10 MW contre 1 MW actuellement. C'est un coup de pouce pour les entreprises soucieuses de réduire leur dépendance à l'égard d'ESCOM. Les entreprises qui bénéficieront des 10 MW seront dispensées de l'obligation de licence, mais devront s'enregistrer auprès du régulateur de l'énergie, NERSA.
Nous passons directement à votre page d'espoir, Yacouba Ouedraogo avec nous ce soir. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Après avoir résisté au séisme de l'éphémère Super League, la Ligue des Champions reprend avec des demi-finales alléchantes en match aller. Ce soir, le Real Madrid fait face à Chelsea du portier sénégalais Edouard Mendy et de l'ailier marocain Hakim Ziyech. Demain, le Paris Saint-Germain et Manchester City s'affrontent pour un ticket pour la finale à Istanbul le 29 mai. Sur le continent, accueil digne d'un champion pour Francis Ngannou, porté en triomphe par ses compatriotes au Cameroun. Il est arrivé hier au Bercail, un mois après son sacre ici aux États-Unis comme champion du monde de la catégorie des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship, entendez UFC, de Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julentap.
Les populations de Douala, ville dans laquelle Francis Ngannou a fait ses premiers pas dans les arts martiaux, lui ont réservé un accueil chaleureux. Francis Ngannou, en retour, leur a signifié toute sa reconnaissance pour ce soutien.
C'est ce soutien-là qui m'a permis de tenir le coup jusqu'ici. Il y a 3 ans, j'ai échoué ma mission et je vous ai promis que j'allais ramener cette ceinture à la maison.
Dans un impressionnant tour de la ville, escorté par des milliers de motos et voitures, le champion du monde poids lourd des arts martiaux, mixte, a brandi au public la ceinture conquise durant la nuit du 27 au 28 mars 2021 à Las Vegas devant Stipe Miocic, Yaoundé. Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Ici, en NBA, les Suns ont privé les Knicks d'une 10e victoire d'affilée, se rapprochant par la même occasion du Utah Jazz, encore défait à Minnesota, le point des résultats de la nuit dernière avec Bagassi Koura.
Oui, les Knicks 4e à l'Est sont tombés sur plus fort qu'eux face à Phoenix 118 à 110. L'écart s'est réduit ainsi entre Phoenix et Utah, encore battu en back-to-back par Minnesota, 105 à 104. À la troisième place demeurent les Clippers, défaits à la Nouvelle-Orléans, 120 à 103. Après 4 défaites consécutives, les Sixers du Camerounais Joel Embiid, auteur de 21 points, renouent avec la victoire, 121 à 90, aux dépens d'Oklahoma City, en plein marasme avec une 14e défaite de rang. Atlanta a été surpris à Détroit, 100 à 86. Après 3 défaites d'affilée, les Lakers se ressaisissent à Orlando, 114 à 103. Le champion en titre reste assez loin de la quatrième place occupée par Denver, facile vainqueur de Memphis, 120 à 96. Les Bulls de Chicago qui restent 11e ex aequo avec Toronto, un Toronto vainqueur de Cleveland, 112-96.
Bagasikura, merci.
C'était les sports de Yakuba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakis va de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. La police tchadienne a dispersé mardi à coups de gaz lacrymogène des manifestations contre la junte qui a pris le pouvoir après la mort du président Idriss Déby Itno. Des appels à manifester ont été lancés par plusieurs partis de l'opposition et des organisations de la société civile. Ces rassemblements ont été interdits lundi par le Conseil militaire de transition. Le reportage de André Kodimajingar, correspondant de VOA Afrique, à N'Djamena.
L'objectif de cette manifestation pacifique lancée par la coalition Wakitama, un regroupement des forces vives de la nation, vise à exiger le retour à l'ordre constitutionnel et la démission du Conseil militaire de transition. Un appel qui a été entendu par la population de N'Djamena et dans presque tout le pays. Très vite, elle a été violemment réprimée par des éléments des forces de l'ordre qui ont tiré à balles réelles sur les manifestants. Une bavure qui s'est soldée par 3 morts confirmées alors que la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme parle de 9 morts, dont 7 à N'Djamena et 2 à Mundu. Un manifestant blessé à l'avant-bras témoigne.
Ils nous ont poursuivis, j'ai viré pour entrer à l'église. Puis ils nous ont tiré des barrières.
De l'autre côté, c'est sorti de l'autre côté.
Tu vois, il y a l'entrée ici. Oui, c'est sorti ici.
Aucune institution et domicile privé ne sont épargnés par des tirs de grenades lacrymogènes, comme en témoigne à VOA Afrique quelques citoyens.
Les manifestants. Ils ont oublié d'aller se réfugier au niveau de l'église. De dehors, mais ils ont jeté des trucs. Moi, j'ai vu un manifestant blessé au niveau de France.
Il y a 3 jeunes qui ont tué et puis ils sont entrés dans une concession voisine là. Et ils ont mis la canne. Mais les policiers ont escaladé le mur pour aller dedans et puis ramasser les jeunes là pour les tabasser.
Même les portes de certaines concessions bien fermées ont été défoncées par la police. Ce qui ressemble à des règlements de compte. Une ménagère qui requiert l'anonymat s'est dit très choquée par ce comportement.
On a fermé le portail. Ils ont lancé des gaz de lacrymogène dedans et puis ils ont demandé d'ouvrir la porte. Personne n'a voulu ouvrir. Ils ont cassé la porte là avec leur véhicule pour faire leur entrée ici. Chaque chambre là, ils ont pris pour casser. Et puis dedans là, les enfants là ont eu peur. Ils se sont cachés dans les chambres. Vous voyez les portes là sont cassées et puis ils ont pris les enfants. C'est un enfant de même père et puis un voisin. L'enfant de notre voisin aussi. Ils ne sont pas des manifestants.
À côté d'elle se trouve un membre de la famille. Lui aussi, dans l'anonymat, déplore le comportement post-social des éléments de forces de défense et de sécurité.
C'est bien dit force de l'ordre, c'est pas force de désordre. Nous sommes pas des sauvages là. Minimum de respect pour la population. On dit des manifestations, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la population est sortie? Que nos gouvernements se posent cette question. Ils veulent à tout prix pousser cette population à faire quelque chose et puis ça, c'est un prétexte ou bien qu'est-ce qu'ils veulent? Quelqu'un a demandé le pouvoir ici? La maman, est-ce qu'elle a demandé? Est-ce que moi j'ai demandé le pouvoir ici? Je demande tout à manger et puis amener mes enfants à l'école et puis c'est tout, être en paix et sécurité, c'est tout. Et demander le pouvoir de quelqu'un ici, pourquoi vous venez brutaliser chez moi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a?
C'est dans cette situation tendue que le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby, s'est adressé à la nation. À la surprise de tous, la démission du Conseil militaire de transition exigée par la coalition Wakitama à travers la rue, qui s'est soldée par mort d'homme, n'a pas été évoquée par le président du CMT. Toutefois, il a déclaré que tout acte, attitude et comportement contraire à l'unité nationale, au vivre ensemble et à la paix, est un grave préjudice causé à la nation. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24h sur 24, sur VOA Afrique, à N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Dans le but de renforcer le système sanitaire du Burkina Faso, les États-Unis ont offert un don à un hôpital mobile pour faire face aux urgences sanitaires liées au coronavirus ou à des situations de catastrophe humanitaire. Cette aide va soulager le pays confronté à l'insécurité et qui a vu les capacités de prise en charge des services de santé se diminuer. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
C'est au monument des martyrs de Ouagadougou que cet hôpital mobile a été dressé. Du matériel médical, un plateau technique performant, un système d'eau et d'électricité. C'est un complexe qui a le nécessaire pour prendre en charge au moins 50 patients. Un geste qui vient soulager le Burkina, qui a des difficultés en termes d'offres sanitaires. Charlemagne Ouédraogo est le ministre de la Santé.
Lorsque nous sommes devant une urgence sanitaire telle que Covid ou Ebola, il est possible de créer un environnement très conditionné qui permette de ne pas propager la maladie et de contenir la maladie à l'intérieur. Et donc c'est un hôpital qui vient renforcer les capacités de Burkina devant toutes les situations de catastrophes humanitaires ou sanitaires.
Cet hôpital mobile offert par les États-Unis a coûté environ 1 400 000 dollars américains. Sandra Clark est l'ambassadeur des États-Unis au Burkina.
Et je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui nous célébrons le don d'un hôpital mobile au gouvernement et au peuple de Burkina Faso. Cet hôpital va aider le gouvernement de répondre aux urgences, aux épidémies, aux catastrophes. Et c'est un exemple de partenariat entre les États-Unis et le Burkina Faso.
Sur le plan sécuritaire, l'hôpital mobile va servir un établissement de soins provisoires déployé en cas de crise sanitaire importante, de catastrophe à proximité d'une zone de combat ou encore lors d'importantes manifestations populaires avec des risques de santé publique élevés. D'ailleurs, selon Ousseini Compaoré, le ministre de la Sécurité qui était à la remise de l'hôpital mobile, cet appui s'inscrit dans un cadre de collaboration civilo-militaire et contribuera à renforcer la collaboration et la coordination des interventions multisectorielles en s'appuyant sur les mécanismes d'intervention existants, la mobilisation des ressources pour la gestion et le fonctionnement des différents dispositifs, équipements et logistiques. La fermeture des formations sanitaires dans certaines parties du pays en raison de l'insécurité et les attaques armées récurrentes ont augmenté la demande de soins et occasionné des afflux massifs de victimes, rendant difficile l'accessibilité aux soins et services. De 2015 à 2020, plus d'une centaine de centres de santé ont fermé à cause de l'insécurité. Au moins 140 autres connaissent une certaine dégradation. Le manque d'équipement adéquat. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
La sprinteuse nigérienne Amina Seini se prépare pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Elle devra courir les 200 mètres au lieu des 400, sa spécialité hyperandrogène. Amina et son encadrement technique ont décidé de ne pas se plier au règlement de la World Athletics qui impose la prise de médicaments aux filles atteintes d'hyperandrogénie pour disputer les distances de 400 mètres et plus. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdelrazak Idrissa.
Donc, dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, on y va.
C'est au cours d'une de ces séances d'entraînement que nous avons rencontré la jeune Amina Seini, 24 ans, quatrième mondiale aux 400 mètres avant le règlement adopté en 2018 par la World Athletic qui oblige les filles hyperandrogènes à prendre des médicaments réducteurs d'hormones pour pouvoir courir sur les 400 mètres et plus. Ne se reprochant rien, Amina Seini et son encadrement rejettent cette option et décident de s'aligner sur les 200 mètres aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Salifu Umaru Gladima est son entraîneur.
Aux yeux aussi, elle court les 400 mètres là. Nous avons la chance d'avoir médaille. C'est garanti même, c'est garanti. Mais au dessin, on peut avoir médaille. On sait qu'on ne on doute pas même au dessin. Mais quand même, si c'était aux 400 mètres là, on sait très bien que nous allons avoir une médaille. Ça c'est garanti. Nous, on va dire que ce règlement, c'est contre nous-mêmes qu'on a fait ça.
Cette stigmatisation du fait de son physique, Amina Seini la subissait depuis ses premières expériences dans l'athlétisme, se souvient son entraîneur.
Quand elle a commencé à courir, elle était toute petite. Quand elle a couru, elle a dépassé tout le monde. Il y a des enseignants qui étaient à la course, ils ont dit non, ils ne sont pas d'accord, elle n'est pas une fille. Ils l'ont pris, on l'a mis dans une maison à la place pour nous. On l'a mis dans une maison, on l'a vérifié. Et après, ils sont revenus. Ils ont accepté.
Ignorant totalement ce débat polémique, Amina regarde droit devant elle, persuadée qu'elle est, qu'elle réalisera son rêve.
Les Jeux Olympiques de Rio, je voulais partir mais vu mon niveau, c'est pas comme les autres niveaux. Mais maintenant je suis prêt à préparer les JO, à participer aussi. J'ai l'espoir d'amener une médaille si je suis dans de bonnes conditions, parce qu'il faut être dans de bonnes conditions. Si ils ont enlevé leur règlement, donc je pourrai participer aux 400 mètres. Mais s'ils n'ont pas levé, impossible d'aller aux 400. Je vais rester toujours sur les 100 et 200 mètres. Et pour combattre, pour moi-même, pour mon pays, pour faire un devoir pour moi-même. Je suis très content de tout ce que j'ai réalisé et je continue pour réaliser mes rêves aussi.
Abdel Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le président Joe Biden boucle ses 100 premiers jours à la tête des États-Unis. Son taux de popularité se situe à 52% selon un sondage réalisé par la chaîne ABC News et le quotidien Washington Post. Des points forts, la lutte contre le Covid-19 et la relance de l'économie. Le sondage révèle par ailleurs que le dossier de l'immigration reste un défi pour le locataire de la Maison-Blanche, sans oublier les relations tendues entre la police et les minorités. Avec nos invités, nous analyserons les 100 premiers jours de Joe Biden à la présidence ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
La vice-présidente américaine Kamala Harris va se rendre prochainement au Mexique et au Guatemala pour traiter la question de l'afflux de migrants à la frontière. Celia Mendoza de la VOA s'est rendue à El Paso au Texas, à la frontière mexicaine, où de nombreuses personnes fuyant la violence et la pauvreté sont à la merci de passeurs sans scrupules. Le récit est de Nathalie Barche.
Pour venir ici, j'ai dû laisser ma propriété mise en gage. Il m'est facturé 20 000 $.
Ronaldo Galicia, un Guatémaltèque de 39 ans, a raconté son histoire lors de son séjour à Casa Alitas, un refuge pour migrants à Tucson, en Arizona, près de la frontière nord du Mexique.
Je ne faisais pas confiance aux gens qui sont venus nous chercher. Ils m'ont mis dans une malle où je ne pouvais pas respirer. Eh bien, Dieu merci, parce qu'ils disent que tous ceux qui vont dans une malle meurent.
La patrouille frontalière américaine affirme que ce type d'activité illégale fait partie d'une entreprise de trafic d'êtres humains de plusieurs milliards de dollars. Mario Escalante, porte-parole de la patrouille des frontières.
Les traversées illégales comportent de nombreux dangers, évidemment, au fil des ans. Ce que nous avons vu, c'est qu'ils profitent des gens, les laissent à l'abandon, les volent. Malheureusement, ils violent les filles et il y a des moments où des choses encore plus horribles se produisent.
Durant son voyage clandestin, Ronaldo Galicia a été témoin de violentes pratiques criminelles.
Ils demandent une quantité d'argent et s'ils ne l'obtiennent pas à l'heure et à la date voulue, ils vous tueront. Ils vous tuent lentement, ils vous couperont la main, la langue, une oreille. C'est leur loi.
Le district du député démocrate Henry Cuellar s'étend de San Antonio à la ville frontalière de McAllen dans le sud du Texas.
Franchement, nous savons que ces groupes criminels gagnent de l'argent en passant de la drogue. Ils gagnent de l'argent en passant des gens.
Les douanes et la protection des frontières rapportent que depuis le début de l'année, la patrouille a arrêté plus de 5000 migrants illégaux qui ont un casier judiciaire ou sont recherchés par les forces de l'ordre. Les autorités se concentrent sur les personnes qui profitent des candidats à l'immigration clandestine, souligne Roberta Jacobson, coordonnatrice pour la frontière sud.
Il nous faut travailler avec les autorités de renseignement et les informations d'autres pays et vraiment nous concentrer sur les malfaiteurs qui exploitent les migrants pour des raisons criminelles et économiques.
L'administration de Joe Biden a envoyé au Congrès une stratégie d'immigration globale et continue de décourager les entrées illégales aux États-Unis. Le président démocrate est accusé par les républicains d'avoir créé un appel d'air à la frontière et de ne pas avoir pris la mesure de la situation sur le terrain, avec en particulier l'arrivée de nombreux enfants isolés exposés aux trafiquants d'êtres humains.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Eric Manilakiza a été à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée. À l'écoute.